Fleur bleue sur France Inter.
Ce soir, dans l'heure bleue, troisième émission de cette semaine spéciale consacrée à ce texte qui résonne dans nos mémoires et qui s'intitule « L'établi ». Publié en 1978 par les éditions de Minuit, signé de Robert Linhart, grand intellectuel d'extrême gauche qui a voulu éprouver dans son corps, dans son cœur, dans son âme et dans son esprit ce que signifiait vivre en usine, nous allons dans une première partie entendre ce texte dans la voix de Samy Frey. Et vers 20h30, nous aurons rendez-vous avec une historienne, Michèle Zancarini-Fournel, qui est professeure émérite à l'Université de Lyon, spécialiste d'histoire contemporaine, auteure de « Les luttes et les rêves », une histoire populaire de la France qui vient d'être publiée chez Zone. Et elle va nous expliquer à quel point cette histoire individuelle que nous raconte Robert Linhart était aussi, à cette époque-là, à la fin des années 70, une histoire collective. Mais nous commençons ce numéro 3 de l'heure bleue en écoutant Samy Frey.
Le comité de base. Il y a des moments d'exaspération. Qu'ai-je fait d'autre en 4 mois que des 2 chevaux ? Je ne suis pas entré chez Citroën pour fabriquer des voitures, mais pour faire du travail d'organisation dans la classe ouvrière, pour contribuer à la résistance, aux luttes, à la révolution. Dans nos débats d'étudiants, je me suis toujours opposé à ceux qui concevaient l'établissement comme une expérience de réforme individuelle. Pour moi, l'embauche d'intellectuels n'a de sens que politique. Et maintenant, ici, c'est cette efficience politique elle-même qui se dérobe. Par où commencer ? C'est immense. Une usine, même de 1200 personnes, on ne peut pas connaître tout le monde. On fait des rencontres au hasard, des amitiés se nouent, le voisin de poste, un type sympa qui engage la discussion à la cantine, le vestiaire. Tout cela permet de tenir, donne un peu d'air, mais c'est le hasard. Et ça ne vous met pas nécessairement en rapport avec les plus combatifs, comme on dit. Vu du dehors, l'établissement, cela paraît évident. On s'embauche et on organise. Mais ici, cette insertion dans la classe ouvrière se dissout en une multitude de petites situations individuelles où je ne parviens pas à trouver une prise ferme. Ces mots même, la classe ouvrière, n'ont plus à mes yeux le même sens immédiat que par le passé. Non pas que j'en sois venu à douter qu'ils recouvrent une réalité profonde, mais la bigarrure et la mobilité de cette population d'OS au milieu de laquelle je me trouve jeté m'ont bousculé et submergé. Chacun ici est un cas. Chacun a son histoire. Chacun rumine sa tactique et tâtonne à sa manière à la recherche d'une issue. Comment m'orienter dans cette espèce d'univers semi-pénitentiaire, indéfiniment provisoire ? Qui peut imaginer qu'il fera une carrière d'OS ? Qui ne ressent, au fond, sa présence ici et la dérision de ses travaux émiettés comme une sorte de déchéance ou d'accident. On se passe des combines, on rêve de rentrer chez soi, d'y ouvrir un petit commerce. Beaucoup s'acharnent au tiercé, ne parvenant qu'à comprimer encore leur maigre quinzaine de 400 francs. D'autres font des coups, au dehors, lesquels ? Puis il y a les trafics. Et le boulot au noir du samedi et du dimanche. Là, après la semaine de chaîne, c'est une bonne chance d'y laisser sa peau en vitesse. Oui. Comment trouver une prise ? Tâtonnement. Propagande en miettes. Recensement de possibles activistes. Tout cela me laisse insatisfait. Cela ne compense pas les 145 de chevaux qui, chaque jour, sortent imperturbables. Je m'étais rêvé agitateur ardent. Me voici ouvrier passif, prisonnier de mon poste. Parfois, j'essaye d'analyser de quoi est faite cette nasse où je me sens englué. D'abord, il y a le travail. Il s'est abattu sur moi. Il écrase depuis longtemps les uns et les autres. 10h ou 9h15 de gestes tendus, entrecoupés de maigres interstices où, avant tout, chacun tente de reprendre son souffle. Tout le reste de la vie se trouve brutalement comprimé, rabougri, morcelé. La conversation, il faut la tasser dans les quelques minutes de la pause ou le rapide repas de la cantine. Vous engagez une discussion le matin avec votre voisin de vestiaire sur une machine dangereuse et sur le grand nombre des accidents de travail à Citroën. Vous donnez des chiffres, vous dites comment cela se passe à Javel, ça l'intéresse beaucoup. Il commence à expliquer ses idées sur ce qu'il faudrait faire. Quelques minutes sont passées. Déjà, le début du travail vous sépare. Chacun doit courir à son atelier. Vous vous promettez de reprendre ça le soir. Quand vous regagnez le vestiaire, plus de 10 heures sont passées. Tout le monde est fatigué. Vous avez oublié où vous en étiez, lui aussi. Vous cherchez quand même à reprendre la discussion, mais il est pressé de partir. Il vous glisse. Allez, faut qu'on en reparle une autre fois. Salut, hein. Et il a déjà disparu.
Je revenais du travail, personne ne m'attendait. J'abandonnais mon travail et quelqu'un survenait. Je reprenais mon travail, ce quelqu'un s'ennuyait. Je revenais du travail et seul me retrouvais. Je revenais du travail, personne ne m'attendait. J'abandonnais mon travail et quelqu'un survenait. Je reprenais mon travail. Ce quelqu'un s'emportait. Je revenais du travail et seul me retrouvais. On m'enlevait mon travail, plus seul je me sentais. Je recherchais le travail, là, plus tout seul j'étais. Je recherchais du travail où je suis, il faisait. Je renonçais au travail qui alors m'ignorait. L'appartement de taille à être intimidant. Pour l'homme seul me poussait à chercher du travail. Qui maintenant m'attend et m'attendra longtemps. Qui maintenant m'attend et m'attend et m'attendra longtemps.
Tu dors trop.
Il faisait. Je renonçais au travail, toujours plus seul j'étais. La 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 la.
Le temps est devenu une denrée rare. Tenir une réunion, dehors, c'est vraiment la moindre des choses. Mais ici, à l'usine, j'ai brusquement le sentiment d'une indécence à l'idée de solliciter de quelques camarades de travail 2 ou 3 heures sans raison grave, juste pour voir ce qu'on pourrait faire. Pourtant, souvent, la fin de la semaine ne leur apporte que l'ennui et un décompte mélancolique des heures qui précèdent la reprise du lundi. Certains jeunes font la fête, sortis en bande dans Sing Cinema, ou tout simplement se saouler. Mais la plupart des ouvriers, surtout parmi les immigrés, entrent dans une espèce de léthargie. Des marches lentes, palabres, longues attentes au café, les muscles et les nerfs cherchent dans cet affaissement provisoire à se reconstituer. Depuis longtemps, le dimanche après-midi, il m'arrive de croiser dans les bistrots du 13e arrondissement des immigrés immobiles et rêveurs devant une bière à peine entamée. Autrefois, je ne leur prêtais guère attention. Maintenant, si, dans leur regard, je reconnais l'angoisse du temps qui s'écoule et dont ils ne peuvent rien faire. la sensation douloureuse de chaque minute perdue qui les rapproche du vacarme de la chaîne et d'une autre semaine d'épuisement. Je me dis alors qu'il faut respecter le rythme de vie des gens et qu'on ne peut faire irruption à l'improviste dans un équilibre qui a tant de mal à se reconstituer chaque soir, à la fin de chaque semaine. Et puis, il y a la peur, et difficile à définir. Au début, je l'apercevais individuellement chez l'un ou l'autre. La peur de Sadoc, la peur de Simon, la peur de la femme au caoutchouc. Chaque fois, on pouvait trouver une explication, mais avec le temps, je sens que je me heurte à quelque chose de plus vaste. La peur fait partie de l'usine. Elle en est un rouage vital. La peur est intimement liée au travail lui-même. La chaîne, le défilé des deux chevaux, le minutage des gestes, tout ce monde de machines où l'on se sent menacé de perdre pied à chaque instant, de couler, de louper, d'être débordé, d'être rejeté, ou blessé, ou tué. La peur suppure de l'usine parce que l'usine, au niveau le plus élémentaire, le plus perceptible, menace en permanence les hommes qu'elle utilise. Quand il n'y a pas de chef en vue et que nous oublions les mouchards, ce sont les voitures qui nous surveillent par leur marche rythmée. Ce sont nos propres outils qui nous menacent à la moindre inattention. Ce sont les engrenages de la chaîne qui nous rappellent brutalement à l'ordre. La dictature des possédants s'exerce ici d'abord par la toute-puissance des objets. Et quand l'usine ronronne, et que les Fenwick foncent dans les allées, et que les ponts lâchent avec fracas leur carrosserie, que les outils hurlent en cadence, et que, toutes les quelques minutes, les chaînes crachent une nouvelle voiture que happe le couloir roulant, quand tout cela marche tout seul, et que le vacarme cumulé de 1000 opérations répétées sans interruption se répercute en permanence dans nos têtes, nous nous souvenons que nous sommes des hommes, et combien nous sommes plus fragiles que les machines. Frayeur du grain de sable. La résistance, je la devine enfouie dans les collectivités nationales immigrées, murmurée en kabyle, en arabe, en serbo-croate, en portugais. Dissimulée sous une feinte résignation, elle perce, vivace et inattendue, dans la clameur que soulève le vol d'une minute de pause. Elle bourdonne dans l'excitation des vendredis, quand les hommes de la chaîne sont à bout de nerfs, que caoutchouc et boulon volent en tous sens, et que de mystérieux accidents immobilisent fréquemment les engrenages. Ou, plus modeste, elle s'incarne dans la simplicité d'un geste d'entraide. Le voisin qu'on empêche de couler en faisant une partie de son travail, avant qu'il ne soit submergé. Georges, le Yougoslave, venant à mon secours aux vitres, alors qu'il ne sait rien de moi. Sinon mon évident désarroi, des attitudes aussi. Se tenir droit, veiller autant que possible à sa mise. À cet égard, le vestiaire me fascine. Il fonctionne comme un sas et, tous les soirs, une métamorphose collective spectaculaire s'y produit. En un quart d'heure, dans une agitation fébrile, chacun entreprend de faire disparaître de son corps et de son allure les marques de la journée de travail. Rituel de nettoyage et de remise en état. On veut sortir propre, mieux, élégant. L'eau des quelques lavabos gicle en tous sens. Décrassage, savon, poudre, frottements énergiques, produits cosmétiques. Étrange alchimie où s'incorporent encore des relents de sueur, des odeurs d'huile et de ferraille. Progressivement, l'odeur des ateliers et de la fatigue s'atténue, cède la place à celle du nettoyage. Enfin, avec précaution, on déplie et on enfile la tenue civile, chemise immaculée, souvent une cravate. Oui, c'est un sas entre l'atmosphère croupissante du despotisme de fabrique et l'air théoriquement libre de la société civile. D'un côté, l'usine, saleté, veste usée, combinaison trop vaste, bleu taché, démarche traînante, humiliation, d'ordre sans réplique. Hé, hey, toi ! De l'autre, la ville. Complet veston, chaussures cirées, tenue droite, et l'histoire d'être appelé monsieur. tous les immigrés, les Noirs sont les plus attentifs. Le balayeur insignifiant flottant dans une toile grise informe que j'ai vue il y a 10 minutes pousser son tas de poussière de marche en marche sort maintenant de l'usine, costume à fines rayures, chemise très blanche, cravate, chaussures étincelantes, attaché caisse. Plusieurs ouvriers arrivent et repartent un attaché caisse à la main, qui contient en général le sandwich de la pause, parfois un journal de course pour préparer le tiercé. Passer dans la rue, dans le métro, pour un employé de bureau, un fonctionnaire, un responsable africain en mission. En toute autre circonstance, je trouverais cet accoutrement dérisoire. Ici, il me paraît faire naturellement partie de la résistance des OS, saisir chaque occasion de montrer qu'on ne se laissera pas couler. Une façon comme une autre d'afficher le respect de soi. Plus encore que dans l'analyse politique, c'est là, dans ces infimes manifestations de résistance perçues chaque jour, que je trouve mes vraies raisons d'espérer. Au pire moment d'exaspération subsiste une certitude diffuse, presque inconsciente, d'une force souterraine toute proche qui, un jour, jaillira. Alors, attendre. Je me dis qu'il finira bien par se passer quelque chose. Et ce quelque chose se produisit enfin, au mois de janvier. Préparer la réunion. Je m'y mets aussitôt, profitant des pauses de la cantine, des vestiaires, prenant deux mots rendez-vous dans la bousculade des flots entrant et sortant autour des horloges pointeuses, au café souvent. Par la même occasion, j'entreprends d'expliquer mon établissement à tous ceux que je pense connaître suffisamment. Si nous devons agir ensemble, le dissimuler serait malhonnête. L'établissement. J'en avais déjà parlé à Sadok presque par hasard parce que c'était venu dans une conversation à l'usine. Je lui avais dit que je n'étais pas vraiment ouvrier, que j'avais fini des études pour être professeur. Il m'avait écouté avec un scepticisme indulgent, doutant visiblement que l'on pût choisir une vie semblable sans y être contraint. Un peu la réaction du détenu auquel le nouveau à peine arrivé dans la cellule proclame « Moi, c'est un cas à part, je suis innocent. » Cause toujours mon bonhomme, pense l'ancien, on connaît la chanson. Puis, quand chassé par son propriétaire, il était venu habiter chez moi quelques jours, l'entassement des livres et des papiers l'avait convaincu. Alors, tu pourrais vraiment être professeur ou travailler dans un bureau? Oui. Il n'avait plus rien répondu, mais ses yeux disaient « Tu es fou ». Cette réaction extrême de Sadok est restée isolée. La plupart des autres ne sont guère frappés par la chose. Les Yougoslaves enregistrent sans faire le moindre commentaire. Simon me dit « Ah bon ? Et vous êtes beaucoup comme ça ?» Son visage mobile prend une expression alléchée, comme s'il allait en apprendre de belles, mais à peine ai-je répondu que déjà il me parle d'autre chose. Quant à Christian, il me pose des questions sur la situation dans les facultés et sur les rapports entre les groupes révolutionnaires. Et puis très vite, cela passe dans le tableau général, des caractéristiques individuelles auxquelles, par habitude, on ne prend plus garde. Plus personne ne m'en parle. À l'extérieur, l'établissement paraît spectaculaire. Les journaux en font toute une légende. Vu de l'usine, ça n'est finalement pas grand-chose. Chacun de ceux qui travaillent ici a une histoire individuelle complexe, souvent plus passionnante et plus tourmentée que celle de l'étudiant qui s'est provisoirement fait ouvrier. Les bourgeois s'imaginent toujours avoir le monopole des itinéraires personnels. Quelle farce ! Ils ont le monopole de la parole publique, c'est tout. Ils s'étalent. Les autres vivent leur histoire avec intensité, mais en silence. Personne ne naît OS. On le devient. D'ailleurs, ici, à l'usine, il est très rare qu'on désigne quelqu'un comme l'ouvrier qui... Non, on dit la personne qui travaille à la soudure, la personne qui travaille au pare-choc, la personne... Je ne suis ni l'ouvrier, ni l'établi. je suis la personne qui travaille au balancelle. Et ma particularité d'établi prend sa place anodine dans l'enchevêtrement des destins et des cas d'espèce. La seule vraie différence avec mes camarades d'usine, parmi lesquels se trouvent bon nombre d'ouvriers improvisés venus des campagnes ou d'autres pays, c'est que moi, je pourrais toujours reprendre mon statut d'intellectuel. Je vis ma peine comme eux, mais je reste libre d'en fixer le temps. Je ressens très vivement cette différence, comme une responsabilité particulière. Je ne puis l'effacer. Quelle que soit la répression, elle ne m'atteindra jamais aussi durement qu'eux. Je me fais la promesse de rester dans l'usine aussi longtemps que l'on ne m'en chassera pas, quelle que soit l'issue de notre lutte, quelle que soit la répression, en aucun cas je ne prendrai mon compte. Nous construisons notre grève. Je découvre que les balancelles sont un poste stratégique. D'ici partent les éléments de carrosserie que Simon répartira le long de la grande chaîne. Désormais, les tracts prendront le même chemin. Simon, ravi, les enfouit sous sa veste avec des gestes de conspirateur. Cette besogne souterraine lui convient tout à fait. Il a emporté des capots, il ramène le chariot vide. Les Espagnols ont leurs tracts. Un voyage de portière, les tracts en arabe aux Marocains des feux avant. Il me chuchote les détails, décrit brièvement les réactions. Au casse-croûte, nous nous mettons à l'écart pour faire les comptes. Les tracts ont fait une forte impression. C'est notre dignité qu'on veut briser par ce travail supplémentaire gratuit, répète-t-il chaque jour dans toutes les langues. C'est plus important que la fatigue, la paye et tout le reste. Ça n'a pas de prix. Le noir des sièges l'a lu en arabe, lentement, puis il est venu me serrer la main. Il s'arrêtera à 5 heures. C'est promis. Nous affichons partout. Les chiottes sont un endroit de choix, on peut lire tranquille, à l'abri des regards. Ça commence à mordre un peu sur la grande chaîne, ici ou là, une promesse d'arrêter à 5 heures. Ça suffira-t-il ? À la deuxième réunion du comité de base, nous sommes une trentaine, on pointe, on compte. Je garde de cette période le souvenir d'un fonctionnement naturel, presque paisible, et je crois qu'il en fut de même pour la plupart des camarades. Les occupations ordinaires de la lutte nous délivraient en partie de l'angoisse et de l'amertume. Tout prenait un sens. Pour une fois, les blessures et les humiliations de la vie quotidienne ne se perdaient plus dans le puissant fond de notre rage impuissante. Les chefs pouvaient insulter, bourrer, voler, mentir. Nous leur avions ouvert un compte secret. Et, chaque fois qu'ils l'alourdissaient d'une nouvelle injustice, nous pensions « Rendez-vous le 17 février ». Nous avions enfin un horizon commun. Nous prîmes l'habitude de l'élargir. Le matin, à la pause de 8h15, nous nous installions sur la troisième marche de l'escalier de fer qui monte de notre atelier à l'atelier de peinture. Là, au milieu des taches de graisse et des sandwichs déballés, nous tenions de petits meetings politiques à 6 ou 7. Je me souviens avec précision d'une de ces conversations et d'une réplique de Georges. Simon était en train de s'exalter à évoquer la révolution à venir. Il faudra tout de suite attaquer les casernes pour prendre les armes. Georges l'interrompit. Légèrement narquois. Dans ce cas-là, ce ne sont pas les armes qui manquent. C'est le courage de s'en servir. Les armes, on en trouve toujours. Simon fit une curieuse mimique d'écolier pris en faute et se tut. Entre la diffusion des tracts, nos petits meetings d'atelier, les réunions du comité de base, le pointage fiévreux de notre progression, ce mois de propagande fut, tout compte fait, un mois de bonheur.
Vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez France Inter, vous venez d'écouter cette troisième partie de l'établi lu par Samy Frey et nous avons maintenant rendez-vous avec une historienne qui va nous contextualiser et nous expliquer ce moment très particulier des luttes sociales. Nous avons rendez-vous avec Michel Zancarini-Fournel.
« de plaines en forêt, de vallons en collines. Du printemps qui va naître à tes mortes saisons. De ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche, ma France. Cette air de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo tenant de son exil des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres des luards s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui paie toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fosses communes, que je chante à jamais celle des travailleurs, ma France. Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir inséré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles, ma France.
Nous venons d'entendre Samy Frey lire la troisième partie donc du texte « L'établi » de Robert Linhart, qui décrit les conditions de la naissance d'une grève. Et ce soir, nous avons la chance d'être avec Michel Zancarini-Fournel. Vous êtes historienne, vous avez publié de nombreux livres, évidemment d'histoire, mais plus particulièrement d'histoire contemporaine. Vous avez publié un livre extrêmement passionnant et détaillé qui s'intitule « Les années 68, le temps de la contestation ». Vous êtes intéressé beaucoup au parcours de femmes militantes et vous publiez un livre qui est un véritable instrument de travail qui s'intitule « Les luttes et les rêves, une histoire populaire de la France » mais qui commence de 1685 jusqu'à nos jours. Et dans ce gros ouvrage, eh bien, vous consacrez un abondant chapitre à mai 68. Alors, moi, j'aimerais bien qu'avec vous, et pour les auditeurs et les auditrices qui n'auraient pas du tout entendu parler de ces années-là, que vous nous restituiez les enjeux de 68. Parce que, selon le camp auquel on appartient, certains disent 68, ça n'a jamais été une révolution. D'autres disent, ça a été qu'un accident de l'histoire, ça n'a duré qu'un mois. Et d'autres disent, au contraire, un nouveau monde est né en 68. Alors vous qui avez la distance et la rigueur scientifique de l'historienne, pouvez-vous nous expliquer les enjeux de 68 pour mieux comprendre la mise en perspective de l'écriture de ce texte de Robert Linhart?
Alors, le texte de Robert Linhart est paru en 78. Je crois que vous l'avez déjà vu. Ce qui n'est pas inintéressant par rapport à 68, puisque c'est 10 ans après et que c'est la première commémoration. Donc, cette commémoration, en fait, est déjà une commémoration tronquée par rapport aux événements, puisqu'elle ne parle absolument pas des grèves. Et heureusement qu'il y a eu le livre de Robert Linhart, l'établi, pour en parler à ce moment-là. Elle s'intéresse uniquement aux mouvements étudiants et aux manifestations. Et de même, parler seulement de mai 68, c'est déjà une interprétation de l'histoire. Il faudrait au minimum parler de mai-juin 68. Et avec un certain nombre d'autres collègues, nous avons avancé l'idée des années 68, qui justement s'étendait sur une période beaucoup plus longue et qui prenait en compte à la fois des événements qui avaient précédé ce mouvement extraordinaire social de mai-juin 68, et puis ce qui a suivi. Et on peut dire que l'établi se positionne là, puisqu'il s'agit d'un récit qui se tient après 68, entre septembre 68 et juillet 69.
Alors comment et pourquoi ce texte résonne-t-il aujourd'hui ?
D'abord, c'est un très beau texte. Je pense que littérairement, c'est peut-être un des rares, on va dire, sinon le seul, qui retrace cette période-là. Donc, il a une force d'écriture, une force littéraire très importante. Et aussi parce que c'est une expérience à la fois originale, mais qui a été partagée par un certain nombre d'autres personnes, ce qu'on a appelé l'établissement. Et on vient de publier un numéro spécial des temps modernes sur justement ce phénomène de l'établissement. Et je pense que l'intérêt renouvelé pour cette question-là est importante. Elle met aussi en avant la question de l'enquête ouvrière. Et là aussi, c'est pareil, il y a un livre qui vient de sortir à la découverte de Xavier Vignat sur l'espoir et l'effroi, lutte d'écriture et lutte de classe en France au XXe siècle, qui reprend tout ce processus d'enquête.
Alors Robert Linhart, qui a accepté de nous parler lundi et qu'on va retrouver pour la dernière émission vendredi, est un homme d'une modestie confondante qui déteste parler de lui, et donc il nous a livré quelques fragments de son engagement, mais il n'a pas souhaité ou il n'a pas voulu ou il n'a pas désiré, parce que c'est sa nature et son tempérament, dire quelle importance il eut à l'intérieur de ces mouvements intellectuels. Est-ce que vous, Michel Zancarini-Fournel, en tant qu'historienne de cette période-là, vous pouvez nous restituer son itinéraire?
Il était normalien d'Ulm, proche de Louis Althusser, et dirigeant d'une organisation, l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes, qui était née d'une scission de l'Union des étudiants communistes. Une scission qui suivait, on peut dire, politiquement ce qui se passait en Chine après la scission en 1963 entre l'URSS et la Chine. Donc c'est dans ce contexte-là et de dirigeant de cette organisation qu'a été lancé un mouvement d'enquête au printemps 67, et que ce mouvement d'enquête ouvrière a débouché sur le phénomène de l'établissement, de demander aux militants et militantes de cette organisation de s'établir en usine pour à la fois connaître et pour aider à faire émerger des luttes ouvrières dans les usines.
Ça veut dire quoi, un établi ?
Alors, pour Robert Linhart, dans son livre, c'est deux choses. C'est être allé en usine pour un intellectuel, pour un étudiant, c'est-à-dire se faire embaucher alors que c'est pas sa destination première. Et puis, pour Robert Linhart, c'est aussi un objet, c'est un établi d'un ouvrier donc très ancien dans l'usine Citroën, dans lequel justement Robert Linhart s'est établi, Citroën choisi. Et cet établi a été bricolé par l'ouvrier, et on lui enlève par décision du bureau des méthodes, on lui enlève cet établi qu'il avait bricolé au fil des années et qui lui permettait d'effectuer son travail beaucoup plus rapidement qu'il ne l'effectue une fois qu'on lui donne un établi extrêmement moderne. Et c'est un symbole, bien sûr, c'est un symbole de la destruction des savoirs ouvriers, et destruction par une nouvelle organisation du travail rationnelle, je mets des guillemets rationnelle, qui va transformer en profondeur les usines.
Alors un établi, c'est un étudiant qui décide d'aller travailler en usine, exactement comme ce qu'a fait Robert Linhart. Un étudiant qui change de vie, mais décide d'avoir une nouvelle vie, de nouveaux espoirs de vie, un nouvel idéal de vie. Nous allons écouter un extrait d'un débat en pleine rue entre étudiants en mai 68, extrait du film de William Klein, Grand Soir et Petit Matin, parce qu'en 68, les étudiants, justement, voulaient faire la jonction avec le monde ouvrier. On écoute.
Quand on a commencé ce mouvement, il en était dans un ghetto. La classe ouvrière considérait les étudiants comme des fils de bourgeois incapables de se battre contre la police et qui foutraient le camp.
Je te signale qu'ils sont des fils de bourgeois.
Oui, après, même oui, ça, oui, même oui, ça, on peut dire. Bon, Marx a dit qu'on ne juge pas les hommes par rapport à leur origine sociale,
mais par rapport à leur situation. Ça n'exclut pas qu'ils puissent être des alliés de la classe ouvrière, mais ce sont des...
Alors, est-ce qu'on peut dire que c'était un rêve, une utopie ? Est-ce qu'on peut replacer ce moment des années 68, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, Michel Zancarini-Fournel, ce moment de notre histoire nationale, est-ce qu'on peut le replacer par rapport justement à ce qui s'est passé au front pendant le Front populaire, alors, avec les occupations d'usines ?
Les occupations d'usines, oui, c'est un symbole du Front populaire, c'est aussi un symbole de mai-juin 68. Évidemment, ces occupations d'usines qui ont duré du 14 mai 1968 à mi-juillet, on va dire, puisqu'il y a encore des usines en grève ou qui se remettent en grève après avoir fait une rentrée qui convenait pas aux ouvriers. Donc c'est un long processus d'occupation des entreprises et ce contact entre intellectuels et ouvriers n'est pas non plus nouveau. Il a pris des formes spécifiques, on peut dire, à ce moment-là. Donc, l'établissement en est une des formes, mais il y en a d'autres. Hein.
Par exemple,
il y a eu des comités de soutien, il y a eu des un peu partout. Il y a eu des étudiants qui sont venus discuter aux portes des usines. Il y a des ouvriers qui sont venus discuter dans les universités. Des jeunes ouvriers, si vous voulez, là, il y avait une question de génération, les jeunes... sont venus aussi manifester, c'est-à-dire que quand on retrouve dans les archives policières la liste des personnes arrêtées, on est très surprise de voir la diversité des professions des personnes arrêtées.
C'est-à-dire donc la jonction a bien eu lieu.
Elle a eu lieu, elle a été décriée, déniée tout de suite. Je crois que c'est extrêmement important. Et on s'est servi...
Déniée par qui ?
Par toute une série de personnes qui ne souhaitaient pas que ces rencontres se fassent. Et on s'est servi par exemple des images. Je donne l'exemple dans un des livres des images qu'on voit tout le temps à la télévision, qui sont la manifestation qui part du quartier latin pour aller à Renault-Billancourt et qui défile devant des grilles fermées. On l'a vu une série de fois à la télévision. Or, ces images-là n'ont jamais été diffusées à la télévision. Quand on travaille sur les archives écrites de la télévision, on se rend compte que cette image n'a pas été diffusée. Donc, si vous voulez, on s'appuie sur des éléments qui, en fait, ne se sont pas passés, parce que c'est le discours qui a été tenu. Un autre exemple, il y a eu un livre fait par un ouvrier sur la première usine occupée, qui s'appelle « L'Aubépine de mai », le livre... Donc à Nantes, hein, à Bouguenay, à Cité Sud Aviation. Alors ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que c'était Monsieur Papon, Maurice Papon, qui dirigeait Sud Aviation à l'époque et qui avait instauré quelques méthodes un peu autoritaires dans l'usine et dans l'entreprise, dans le groupe plus précisément d'ailleurs. Hein. Et dans ce livre fait donc à chaud, écrit à chaud en août 68, j'ai comparé les différentes versions, la version manuscrite qui a été faite par François Lemadec, qui est l'auteur, et puis la version qui était imprimée 20 ans après, et on avait supprimé dans la version imprimée 20 ans après tout ce qui se rapportait au contact entre étudiants et ouvriers.
Parce que c'était trop dangereux et possiblement.
Parce que ça, oui, c'est
éveilleur d'autres consciences et d'autres luttes.
Et puis c'est pas conforme à l'ordre social.
Ça voudrait dire qu'encore aujourd'hui, fin 2016, il y a encore des choses un peu cachées sur ce qui s'est passé pendant ces années-là.
Cachées ou pas, enfin je sais pas si c'est volontaire, mais en tout cas, c'est des choses qui ont été tues, qui ont été gommés, on peut dire, mais y compris des choses pas toujours reluisantes non plus, hein. Il y a différents épisodes. Et voilà, la complexité d'une situation historique, il faut la rendre dans toute son épaisseur.
Alors, dans cet épisode numéro 3 de l'établi de Robert Linhart, nous avons entendu ce soir comment s'organise une grève, quelles sont les causes de cette grève, quelle est la solidarité entre les ouvriers de cette usine pendant le moment de la grève. Pouvez-vous nous restituer historiquement, Michel Zancarani-Fournel, combien de grèves il y est eu à cette période-là et comment se passait-elle à l'intérieur des usines? Parce qu'il y a quand même un grand absent du récit de Robert Linhart, c'est le syndicat.
Oui, ce n'était pas très étonnant puisque l'opposition avec les syndicats avait été assez souvent importante entre étudiants et ouvriers et aussi entre révolutionnaires gauchistes et, comme les appelait le Parti communiste français, et puis donc les étudiants et ouvriers. Alors les grèves, c'est le plus grand mouvement social, mais on dit comme ça maintenant, on dit plus grève, on dit mouvement social, du XXe siècle, par rapport au Front populaire dont nous parlions tout à l'heure, qui est associé en 68, privé et public. C'est ça la grande différence entre 36 et 68. Alors les grèves, je ne sais pas si on peut... Alors d'abord, il était très difficile de les chiffrer, parce que d'abord, toutes les statistiques se sont arrêtées à ce moment-là, donc au ministère du Travail et de l'Emploi, et aussi parce qu'elles sont très diverses, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ont commencé très tôt, il y a des entreprises qui ont au contraire démarré très tard. Je prends l'exemple des grands magasins, c'est une... Alors c'est une entreprise particulière évidemment, de commerce, de service, mais qui a commencé très tard. Et donc ces grèves-là, elles ont été très diverses selon les bassins d'emploi, elles se sont mises en place selon les régions, selon les secteurs aussi, selon les entreprises. Il y a une très grande diversité des grèves. On ne peut pas faire une généralité de ces grèves-là. Il y a eu, il faut préciser, des grèves extrêmement dures, violentes, en juin en particulier, juin 68, que ce soit à Sochaux, où il y a eu 2 morts, ou à Flins, où il y a eu aussi 1 mort.
Nous allons écouter le témoignage d'une femme après la fin de la grève aux usines Vondère. C'était en mai 68. C'est un extrait de ce magnifique documentaire, La reprise du travail aux usines Vondère, de Jacques Villemont. On écoute le témoignage de cette femme.
Alors, ses camarades, tout le monde a décidé de rentrer.
Non, moi je ne rentrerai pas. Non, je ne rentrerai pas là-dedans. Là, je ne mettrai plus les pieds dans cette tôle, là. Vous rentrez-y, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires, hein, faut le voir. Bien sûr, les bonnes femmes qui sont dans les bureaux, elles s'en foutent, hein. Enfin, il y a avec le patron, c'est tout ce qu'il y a à faire, de toute façon, alors.
On va pas tout résoudre aujourd'hui. On pourra y arriver, l'imposer.
De toute façon, c'est fini, maintenant, on pourra plus rien avoir. C'est pas vrai, pas avec le patron, avec
tout le monde. Il y a 3 semaines et plus 1 jour.
C'est une étape, c'est pas.
Ben oui.
Il sait bien ce qu'il a perdu, lui. T'as fait pas pris.
C'est pas fini, c'est une étape.
Il a dit chez Vondère, ça sera plus jamais comme avant. Tu vois, moi, je voudrais qu'il travaille.
Vous l'avez dit, ça. Ils y
veillent. Premièrement, pour le vote, ils ont fait des saloperies.
On le sait, on le dénoncera. On le dénoncera, mais on peut pas tout.
Bon, ben, il faut pas tout avoir d'un seul coup. On peut pas l'avoir tout d'un seul coup. C'est une étape.
On ne pas maquiller.
Maintenant. Et c'est saboté, le vote, oui. Ils ont fait ça à la saloperie, oui.
Le vote qui a été fait ici a été dépouillé sans un seul représentant.
Oui, d'accord. Il y a eu des pressions vis-à-vis du personnel.
C'est une victoire.
Mais il faut quand même voir, moi je regarde quand même que le patronat, il était
amené. Ils ont reculé,
Le salaire, ils ne voulaient pas en entendre parler.
Il l'augmente de 10%.
Le coût des vacances, qu'ils voulaient vous faire travailler votre semaine de vacances, il a fallu qu'il recule. Hein. Alors il y a encore des trucs à gagner. Là, ils sont du temps de travail, il a mis.
Mais pourquoi, tiens, ils prennent tout le boulot, c'est pour ça les autres. Pour avoir une demi-journée en plus de payer. Hein.
Mais non.
Oui, tiens.
Alors beaucoup de choses dans ce document sonore, Michel Zancarini-Fournel. D'abord la voix des hommes, ce sont les hommes qui essayent de calmer la colère légitime de cette femme qui se sent flouée après cette grève si longue et si difficile et si douloureuse, que des hommes, hein. Et puis d'autre part, on pense à ces réactions d'ouvrières aujourd'hui qui scandent notre vie, dont on parle pas beaucoup dans les médias, mais qui continuent à se battre après qu'elles aient été licenciées pour essayer de continuer leur combat, de la dignité de leur travail, etc., etc. Donc, est-ce que aujourd'hui les femmes ouvrières arrivent à défendre leurs intérêts plus entre elles et sans l'apport des hommes, comme dans ce document de 68 qu'on vient d'écouter? Et d'autre part, est-ce que les grèves d'ouvrières ont plus marqué les années 68 que les grèves dans les usines où travaillaient des hommes?
Alors cette voix de femme, elle est extraordinaire, hein. Elle est extraordinaire, c'est une... On connaît un peu plus son parcours, puisqu'il y a eu le film, le beau film aussi de reprise de Leroux qui cherchait à retrouver cette femme. Et pour moi, vous me posiez la question au début de l'émission là sur ce qu'a produit 68. Et pour moi, elle est le symbole à la fois de la résistance ouvrière des femmes et aussi d'une voix individuelle, c'est-à-dire que elle affirme son point de vue à elle, qui ne passe pas par le point de vue des hommes qui l'entourent, qui sont en fait les dirigeants syndicaux ou les permanents de la ville de Saint-Ouen. Ce témoignage est une force extraordinaire. C'est le 10 juin, le jour de la reprise, et elle reprend finalement, mais c'est vraiment très dur. Et elle travaillait dans un des ateliers les plus durs de cette usine Vondère, hein, qui était ce qu'on appelait l'atelier au noir, où elles remplissaient des piles et où elles n'avaient même pas de douche pour sortir propre de l'atelier. C'était des conditions absolument abominables. Hein. Donc, pour les ouvrières d'aujourd'hui, c'est vrai que les grèves de femmes ont marqué les années 68, en particulier dans des usines textiles. Donc, si vous voulez, elles ont existé, ces grèves ont existé. Ces grèves actuelles, si vous voulez, ont été étudiées entre autres dans un livre publié à La Découverte, le livre de Fanny Gallo, qui s'appelle « En découdre », et où on voit comment il y a une transformation des grèves des années 68 aux grèves d'aujourd'hui, parce qu'il y a eu un investissement, on peut dire, dans l'emploi à cause du chômage de masse. Alors que les hommes et les femmes en 68, et l'exemple de Linhart dans l'établi le montre, il y avait de l'emploi. On trouvait à s'embaucher, mais ce n'est plus le cas plus tard. Et donc, ces grèves de femmes ont pris d'autres formes, on peut dire. Ce qui est, je trouve, notable, c'est comment elles essayent aujourd'hui de mettre en mots, en récit, en théâtre parfois. C'est passé à Avignon, entre autres. Donc voilà, il y a cette forme-là qui est une forme de mémorialisation, on peut dire, de la lutte qui existe.
Quelle est la résonance pour nous tous aujourd'hui du texte de Robert Linhart, L'établi ?
Alors, il y a une résonance très forte, hein, qui est la question de la place des ouvriers immigrés, c'était le nom qu'on leur donnait à l'époque, et qui sont dans ce livre-là individualisés. C'est-à-dire que Robert Linhart leur donne un prénom, un nom parfois, et cette individuation de Mouloud, par exemple, de Georges, le Yougoslave, le chef de bande, il l'appelle, du Sicilien, par exemple, Primo le Sicilien, etc., etc. C'est extrêmement important pour dire ce que c'est aussi, ce que ça a été, mais ce que c'est aussi encore l'usine ou l'entreprise, et l'importance justement de ces personnes qui arrivaient d'ailleurs, qui a eu une histoire et qui se trouvent pris dans ce processus de production où Citroën, les immigrés ne sont que manœuvres, ne dépassent pas le stade de manœuvre, alors que Robert Linhart est embauché parce qu'il est français, avec la classification de OS2.
Merci beaucoup Michel Zancarini-Fournel. Je rappelle que vous publiez un livre qui s'intitule « Les luttes et les rêves, une histoire populaire de la France » aux éditions La Découverte. Et on se retrouvera demain.
Merci.
I don't blame you. We got carried away. I can't hold on to an empty space.
Now you've found the new star to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. To orbit, it could be love. I think you're too soon to call us so. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. I thought I had you on
J'espère qu'on se retrouvera demain pour notre 4e émission de semaine spéciale de l'Heure Bleue consacrée à l'établi de Robert Linhart. Nous retrouverons vers 20h30 la fille de Robert Linhart, Virginie Linhart, qui a écrit en 2012 un très bel ouvrage consacré au texte et à la vie de son père qui s'intitule « La vie après ». Et puis nous retrouverons en début d'émission, grâce à Samy Frey, le texte de Robert Linhart. Merci à Xavier Pestugia qui a réalisé cette émission, qui a été préparée par Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Arthur Daniel. Avec à la technique ce soir, Jean-Louis Deloncle. Et après le prochain journal, on retrouvera, comme chaque soir, Mishka Assayas, A Very Good Boy pour A Very Good Trip.